Voilà, on voudrait d'abord, avec Evelyne, vous dire merci. Merci de l'accueil. Merci de penser à nous et de continuer à prier pour l'œuvre de Dieu aussi à Toulouse. C'est vrai qu'il y a quand même plusieurs églises, vous le savez, évangéliques et je crois fondées dans la parole de Dieu, qui sont à Toulouse. Mais comme nous l'avons déjà vu ce matin, on a besoin de fermeté. On a besoin d'être ferme. Constamment et à Toulouse comme dans tous les lieux en France, pour pas dire en Europe et dans le monde, ben, on est de temps en temps secoué, comme on l'a vu, jusqu'à l'ébranlement. Et donc, nous avons besoin de cette solidité qui ne peut venir que du Seigneur. Alors, oui, je crois que cet après-midi, ça serait quand même intéressant pour nous, après avoir vu tenir ferme. Mais qu'est-ce que c'est que la fermeté? Ben de voir comment rester dans cette fermeté, n'est-ce pas? Rester ferme. Alors, j'ai l'impression, comme vous, sans doute, quand vous lisez les lettres de Paul, de Pierre, de Jude, de Jacques, etc., et quand on lit surtout les Actes des apôtres, où nous pouvons dire que c'est le premier livre historique du christianisme, du début, n'est-ce pas, de l'évangélisation et le début ou de l'installation, de la fondation des premières églises. Je ne sais pas si vous vous êtes aperçu que souvent, on va lire que deux ou trois versets, mais souvent, celui qui dirigeait cette église ou ceux qui dirigeaient cette église demandaient à ses frères et sœurs de rester attachés d'une foi ferme, au Seigneur. Et je voudrais faire l'expérience avec vous de prendre les actes des apôtres. Merci beaucoup. Alors, d'abord, prendre les actes des apôtres au chapitre 11. Merci. Et puis nous irons au chapitre 13, qui est juste à côté. Chapitre 11, les actes des apôtres. Peut-être qu'il serait bien de revoir un peu le contexte. Nous sommes du temps où il y a l'église d'Antioche, l'Antioche qui est en Syrie, n'est-ce pas? Et je crois qu'on ne s'arrête pas assez souvent sur cette église d'Antioche. C'est une église qui, en tout cas au début, malheureusement, parce que, voilà, ils ne sont pas restés fermes. On apprend par l'histoire de l'église, hein, que petit à petit, c'est une église qui a dévié de la véritable doctrine. Mais en tout cas, à cette époque-là, c'était une église qui vraiment était un modèle pour chacun de nous. Faut pas oublier, je l'ai noté, que c'est dans cette église d'Antioche où la Bible dit que pour la première fois, Actes chapitre 11, pour la première fois, les disciples du Seigneur furent appelés des chrétiens. Alors vous savez que chrétien aujourd'hui ne veut plus rien dire, c'est dommage, mais c'est fini. Je ne sais pas si vous le savez que l'origine du mot chrétien, c'est presque une moquerie. Quand on étudie, on s'aperçoit que dans cette église d'Antioche, les frères et sœurs étaient tellement près du Seigneur, ils étaient tellement en communion avec lui, qu'ils reflétaient la présence de Christ. Ils avaient une odeur de vie. Et c'est pour cela que chaque fois que l'on rencontrait un disciple, parce que le terme exact, je sais que ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, si moi-même je disais à quelqu'un dans la rue, je suis disciple du Seigneur, je suis disciple du Christ, alors là, c'est comme quand vous dites, je suis un saint. Alors là, ça ne veut plus rien dire. Mais c'est pour cela que aussi, si je dis je suis chrétien, ça ne veut plus rien dire. Vous comprenez? Et alors, ces hommes et ces femmes de cette église d'Antioche étaient tellement imprégnés de Christ, ils reflétaient tellement Christ, ils pouvaient dire, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit moi, alors on les appelait tout simplement des chrétiens, qui voulaient dire entre autres des petits Christ, des petits Christ. Vous vous rendez compte un peu? Pourquoi? Mais parce que, regardez, quand Barnabas a été envoyé de Jérusalem dans cette ville d'Antioche, il nous est dit au verset 23, acte 11, 23, lorsqu'il fut arrivé, donc Barnabas, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, ben il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un seul cœur ferme, attaché au Seigneur. Rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Et alors quand on va un peu plus loin, là il y a Barnabas, mais il y a l'apôtre Paul qui l'a suivi. Et dans Acte 13, voilà l'exhortation qui est donnée aussi à cette église. Il est dit que au verset 43, à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretenaient avec eux et il exhorta à rester attachés à la grâce de Dieu. Attachés à la grâce de Dieu. Je crois que pour devenir ferme et rester dans la fermeté, n'est-ce pas ? Il faut se détacher pour s'attacher. Il ne faut pas oublier que la Bible prophétise, annonce que dans les derniers temps, il y en a certains qui vont se détacher de la grâce de Dieu pour s'attacher à toutes sortes de doctrines. Je vous lis le passage qui est vraiment prophétique, et malheureusement là nous sommes dans le premier siècle du véritable christianisme, et aujourd'hui nous sommes dans le 21e siècle. Mais voilà ce que je lis dans 1 Timothée au chapitre 4 et au verset 1. « Mais l'Esprit, le Saint-Esprit, Dieu, dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, etc., etc. S'attacher pour ne pas se détacher. Et je crois que pour devenir ferme et tenir ferme, il faut de plus en plus s'attacher. Je viens régulièrement, chaque année, dans une région que certains vous connaissez peut-être, les Charentes-Maritimes, où habite la maman d'Evelyne. Et d'ailleurs, c'est Evelyne qui m'a fait découvrir cette belle région où il y a, entre autres, de la bonne nourriture. Et entre autres, il y a beaucoup d'huîtres, beaucoup de moules, beaucoup de crustacés. Et c'est là où j'ai appris au travers des années, de quelle manière les huîtres s'attachent, ou les moules s'attachent. Et c'est très difficile de les décrocher, parce que de plus en plus, où on les touche, où on s'approche, on sent qu'elles adhèrent de plus en plus, comme si elles faisaient corps avec. Et je crois que c'est une bonne leçon pour nous. Ce matin, nous avons vu qu'il faut s'enraciner de plus en plus. Et là, la Bible nous dit, attache-toi de plus en plus au Seigneur. Et plus je m'attache à lui, plus il faut que je devienne une seule plante, comme dit la Bible. Une seule personne. De plus en plus, comme dit l'apôtre Paul, je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il y a une autre expression que Paul emploie. Ce matin, nous avons vu que quand Paul a réuni tous les anciens d'Éphèse, et voilà une des exhortations qu'il leur laisse dans Acte 20 et au verset 24, écoutez, « Mais je ne fais de moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Se détacher pour s'attacher. Et ça, c'est un des éléments qui va nous rendre fermes, n'est-ce pas ? Plus je m'attacherai au Seigneur, plus je vais devenir, donc, comme dit la Bible, une même plante. Je vais être en lui, se détacher. Nous avons du mal, parfois, à nous détacher de certaines choses. On s'y prend, on s'y reprend, et sans arrêt, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui encore nous attache. Vous avez sans doute tous eu cette expérience, moi qui ne suis pas très patient, mais cette expérience qu'on nous fait un cadeau, et puis alors, on est tellement dans la joie de découvrir ce qu'il y a au travers de tout cet emballage qui est là, qu'on est là, on décroche, et puis c'est terrible, mais il y a toujours un dernier bout de scotch qui se maintient là, n'est-ce pas, et on ne peut pas acquérir le cadeau qui est là, le voir. Ben c'est ça. Et je crois que dans nos vies, si on manque de fermeté, c'est parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous attache à la terre, n'est-ce pas, au terrestre. Et il faut que nous demandions vraiment au Seigneur qu'il nous aide à nous détacher de tout ce qui va nous embarrasser, on va en parler quelques instants, nous embarrasser de cette vie spirituelle. Se détacher complètement. J'aime beaucoup les histoires des petits garçons. Et je me suis rappelé toujours de cette petite histoire que des moniteurs, monitrices racontent sans doute en ce moment aux enfants, je ne sais pas, de ce papa qui était avec son petit garçon. Et voilà ce petit garçon tout triste, et même il commençait à pleurer parce qu'il avait mis sa main dans un bocal et puis il n'arrivait plus à la sortir. Et alors le papa était là, il le regarde et lui dit, mais il lui dit, écoute, mon petit, au lieu de garder la main comme ça, comme un poignet, mets-la comme ça, et tu verras, tu ressortiras. Oui, mais c'est que j'ai une pièce dans la main. Et alors, tant qu'il n'a pas lâché la pièce qui était dans sa main, il se retrouvait toujours avec cet embarras avec lui. Et je crois que c'est ça. C'est ça, il y a encore une dernière chose que nous ne voulons pas lâcher. Et c'est ce qui nous ralentit notre fermeté. Soyez fermes. N'oubliez pas le terme de ce matin. La fermeté. J'avais pensé à autre chose. Qu'est-ce que c'est, puisque nous sommes dans... Qu'est-ce que c'est qui me gêne de devenir ferme et de rester ferme? Je pensais à ce passage dans la Bible où il est dit, dans 2 Timothée au chapitre 2, et au 2 Timothée au chapitre 10, au verset 4, à propos des soldats, vous savez que la Bible, Dieu, compare parfois l'enfant de Dieu à un laboureur, d'abord un semeur, un laboureur. Il compare l'enfant de Dieu, à un soldat. Et alors, il voilà que l'apôtre Paul est en train d'exhorter Timothée, et lui dit dans 2 Timothée et au chapitre 2 et au verset 4, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrobé. Et une des choses qui nous empêche d'avoir et de rester dans cette fermeté, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui nous embarrasse. C'est vrai qu'on a tous eu cette expérience, n'est-ce pas, où il y a toujours quelque chose qui traîne, n'est-ce pas? Et on a beau essayer d'enjamber, il y a toujours quelque chose qui reste là, qui nous embarrasse. Et tant que je n'ai pas laissé cela de côté, je suis toujours embarrassé. Et je n'arrive pas à avancer. Quelle est la chose qui m'embarrasse? Mais c'est cette chose-là qui m'empêche de rester ferme, de rester dans cette fermeté. Je vous donne encore un autre exemple. Qu'est-ce que c'est qui peut m'embarrasser? Est-ce que d'abord, je suis bien installé sur un bon fondement? Pourquoi je dis ça? Parce que je pense entre autres au psaume. Souvent, dans les psaumes, il est parlé de notre marche, il est parlé de nos pas. Et alors, je relisais ces derniers temps le psaume 40, et voilà ce que, de nouveau, le Seigneur a voulu souligner pour moi dans le psaume 40. Il est dit au verset 3, il est dit, « Il m'a retiré de la force de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pas sur le roc. » Et il a affermi mes pas, la fermeté. Et ça aussi, c'est important. Où c'est que j'ai installé ma vie? Où c'est que je l'ai fondée? Où je l'ai commencé à construire ma vie? Est-ce que je suis sur, comme il est dit ici, dans un endroit où ça bouge, où il y a de la boue? Il faut être sur un lieu sûr, sur un bon socle. Sur, comme on dit aujourd'hui, pour devenir, et là je passe à un autre élément, est-ce que je veux devenir une colonne? et pour devenir une colonne qui est ferme, qui est bien établie, pour que les autres puissent peut-être compter sur moi et s'appuyer sur moi, est-ce que moi-même, je suis bien installé, bien fixé quelque part? Il faut que le Seigneur, comme il est dit ici, il m'a affermi les pas, mais avant d'affermir les pas, il m'a sorti de la fosse, il m'a sorti de la boue. Vous comprenez? De tout cet endroit où plus on bouge, plus on s'enfonce. Et donc, il faut que je demande vraiment au Seigneur, oui, retire-moi de cette boue et place-moi sur le rocher, dit la Bible, que je ne peux atteindre. C'est toi qui vas me permettre d'être maintenant assis. Tu es le roc. Tu es pour moi la pierre angulaire, comme dit la Bible. Et à partir de ce moment-là, alors oui, je vais pouvoir construire avec l'aide du Seigneur ma vie. Est-ce que d'abord, je suis sorti de cette force, de cette boue, et alors il a affermi mes pas. Et alors, il est vrai qu'à partir de ce moment-là, Dieu veut que nous devenions des colonnes. Excusez-moi, je parle souvent de Timothée, mais c'est sûr que les épîtres de Paul à Timothée m'ont marqué. Et de nouveau, je reviens sur ce passage qui parle de la colonne, vous le connaissez vous-même, mais je vous donne quand même la référence, 1 Timothée au chapitre 3, et voilà ce que Paul dit à ce jeune évangéliste. Il faut le dire, hein, il faut le dire qu'au départ, il était jeune. Il a eu ce privilège, un peu comme certains d'entre nous, comme moi-même, de naître déjà dans une famille qui connaissait le Seigneur, jusqu'au jour où nous avons été saisis d'un esprit vraiment venant du Seigneur, de repentance, de conviction, et que le Seigneur nous a sauvés. Et alors, voilà que Paul le dit à Timothée, au verset 14, je suis dans 1 Timothée chapitre 3, verset 14, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, etc., etc. » Quand je lis le mot colonne, je pense à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui, en s'adressant aux chrétiens de Galatie, dit que, voilà, il a fait de lui une colonne pour prêcher pour les païens, et il a fait Pierre une colonne pour prêcher pour les juifs. Est-ce que nous sommes devenus des colonnes? Et alors, pour devenir des colonnes, évidemment, ça demande du travail, ça demande une construction spéciale. Je ne sais pas si vous vous intéressez à l'archéologie. J'aime regarder de temps en temps ces livres et ces documentaires qui parlent d'archéologie. Et alors, ce qui m'a marqué chaque fois dans cette archéologie, c'est que beaucoup de choses se sont écroulées. Et la seule chose qui reste, c'est des colonnes. Regardez un peu ces vestiges qu'on nous montre de la Grèce, des vestiges qu'on nous montre peut-être du Moyen-Orient, etc. Palmyre, puisqu'on a parlé dernièrement de Palmyre, ce qui reste, malgré les siècles qui sont passés et les intempéries qui sont passées par là, c'est des colonnes. C'est la seule chose qui reste. Et Dieu veut, le Seigneur veut que nous soyons des colonnes. Ferme, tenir ferme. Des tremblements, comme on l'a vu ce matin, des vents, des tempêtes, la colonne reste là. Pourquoi? Parce que il faut qu'on devienne, peut-être, Dieu veut qu'on devienne des appuis pour les autres. Premièrement, il veut qu'on devienne déjà un appui pour la vérité, que nous soyons des hommes et des femmes sur qui on lève la main et on sait qu'en levant la main, nous sommes quelqu'un qui prêche la vérité, qui prêche la Bible et uniquement la saine doctrine. Et donc c'est là où à ce moment-là, d'autres peuvent adhérer à ce que nous prêchons et dire « Oui, il prêche la vérité. Je veux m'appuyer sur ce que je viens d'entendre, ce que tel ou tel enseigne, parce qu'il s'appuie en premier dans la parole de Dieu, dans la Bible. » Et puis, petit à petit, où c'est qu'on arrive? Alors, bien sûr, je voulais juste vous rappeler que ce matin, nous avons vu que qui dit la fermeté, le mot fermus en latin, c'est le mot solide. Donc, est-ce que je peux m'appuyer solidement? Ou est-ce que je sais que quand j'ai noté ici, quand je vais m'appuyer, ça va lâcher? C'est la lâcheté qui m'attend. C'est la faiblesse. Il n'est pas fiable. Vous comprenez? Et le Seigneur cherche des hommes et des femmes aujourd'hui fiables. Donc, qui ont la foi, qui ont un appui dans la vérité, qui s'appuient sur le Seigneur. Et à partir de ce moment-là, alors, oui, on va pouvoir se porter les uns les autres et être des appuis les uns pour les autres. Et puis, je vous ai dit, cet après-midi, on va revenir, je vous ai dit, sur le texte des armes. Et je voudrais que vous le repreniez, parce qu'il y a, pour moi en tout cas, j'ai vu quelques enseignements qui sont là. Alors je vous demande de reprendre Éphésiens au chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, où il est parlé de toutes ces armes que nous connaissons, je crois, la plupart, hein, où il est parlé de l'épée, mais il est parlé aussi des chaussures. Il est parlé de la cuirasse, il est parlé de la ceinture. J'ai dû en oublier, hein, mais nous avons toutes les armes qui sont là dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Et alors, moi-même, je l'ai souligné. Je l'ai souligné pour me rappeler qu'il y a des armes spirituelles et des armes charnelles. Des armes de lumière et des armes des ténèbres. Il y a des armes qui sont données par le monde et des armes uniquement qui viennent de l'armurerie du Seigneur, de Dieu. La première des choses, sur moi, qu'est-ce que j'ai comme arme? Est-ce qu'il y a longtemps que nous avons peut-être déposé les armes, comme on dit? Aujourd'hui, c'est le 11 novembre, et sans doute qu'un peu partout en France, il y a eu cette commémoration, bien sûr, de ces armes, qui un jour, le 11 novembre, 1918, elles se sont tues. Pourquoi? Des années de guerre, des millions de morts. Ne parlons pas du nombre de morts qu'il y a aujourd'hui à cause des guerres. Il semblerait qu'il y a à peu près une quarantaine de conflits en ce moment dans le monde. Des guerres civiles, des guerres entre deux, trois, quatre. Encore un des signes des derniers temps, ça ne va pas s'arrêter. Vous le savez, ça sera de pire en pire. Bien. Je combats avec quelles armes? Des armes charnelles ou des armes spirituelles? Et c'est là où c'est important pour tenir ferme. Il me faut ces armes, il me faut cette armure. Je ne peux pas tenir ferme si je n'ai pas cette armure. Et alors là aussi, je l'ai noté, il faut apprendre à se débarrasser, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans 2 Timothée, hein, au chapitre 2, un soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie, il faut qu'on se dégage des armes des ténèbres, des armes de ce monde, des armes charnelles, pour se revêtir uniquement des armes venant de Dieu. Et c'est à ce moment-là où tu pourras tenir ferme. On va le relire ici dans quelques instants. Pour que nous comprenions peut-être un peu mieux, rappelez-vous, une histoire que les enfants aiment et que moi aussi j'aime beaucoup, c'est l'histoire, bien sûr, de Goliath et de David. Et alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, je voudrais relire 1 Samuel au chapitre 15. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qui se passe pour lui. C'est important, ça aussi. L'important, quoi? C'est qu'à un certain moment, bien, Saül est là, et puis Saül a dit, mais tu... Donc, c'est toi? C'est toi qui vas combattre? Ben, David dit, oui, je vais y aller. Mais je vais y aller avec le Seigneur, je vais y aller avec l'Éternel. Bien. Et puis, il voit que David s'avance, il est là, et puis il lui dit, non, écoute, arrête, je vais te donner mon armure. Et puis il essaye l'armure, mais alors, il n'arrive pas à bouger, hein, n'est-ce pas? C'est dur, comme on l'a vu ce matin, c'est stoïque. C'est pour ça que ça a donné le mot stoïque, je ne sais pas s'il existe en anglais, rester stoïque aussi, très bien. Mais ça démarre là, n'est-ce pas? Dans la philosophie grecque, n'est-ce pas? Être stoïque, c'est... De ne pas bouger, la dureté, comme on en parlait tout à l'heure, hein, avec ça. Ben, il était là, figé. Mais ce n'est pas ça, être ferme, pas du tout. On l'a vu, il faut être à l'aise. Et alors, c'est là où 1 Samuel, chapitre 17, David dit non, non, non. Je laisse cette armure de côté et je vais me revêtir uniquement des armes que Dieu me donne. Et Dieu lui donne cette fronde, lui donne juste 5 pierres, c'est tout. Et avec cette fronde, 1 Samuel chapitre 17 et 5 Pierre, il va combattre et il va gagner. Il va gagner parce qu'il est dit qu'il combat au nom de l'Éternel. Amen. Et c'est ça. Je crois qu'il faut qu'on ait le courage pour tenir ferme, qu'on se débarrasse, j'insiste là-dessus, qu'on se débarrasse de toutes les stratégies humaines, de tout ce qui est humain. Et que je revête les armes de Dieu. Alors regardez les termes qui sont utilisés hein, par Dieu et qui correspondent exactement à la méditation de cet après-midi comme de ce matin. Hein. Tenir ferme. Alors maintenant, comment je peux tenir ferme? Mais comment tu peux tenir ferme? Verset 10, il est dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa force. À elle, pas une force humaine, une stratégie humaine. Il y en a tellement aujourd'hui, n'est-ce pas, de stratégies. Toute puissance. Et puis, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il n'est pas dit des armes humaines. OK? Très bien. Afin de quoi? Eh bien, après, de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Et il y en a, et il y en a, et il y en a de plus en plus. Parce que pourquoi? Parce que depuis Genèse, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 3, jusqu'à Apocalypse, chapitre 20, le diable, c'est incroyable de faire une étude biblique là-dessus, le diable est appelé sans arrêt le séducteur. Le séducteur. Et il va essayer toujours de nous séduire pour, si tu utilises cette stratégie, alors là je te promets, tu auras du succès, etc. Un peu la stratégie de la séduction pour notre Seigneur Jésus-Christ. Satan qui parle avec lui, qui lui dit, écoute, si tu te prosternes devant moi, je te donne alors tous les royaumes de la terre, etc., etc. Il n'a pas changé. Et la séduction est là. Tout à l'heure, le frère me disait, attention parce que Satan se déguise en ange de lumière, jusque-là. Donc ça veut dire que la séduction va être très, très, très forte. Ou à un certain moment, comme dit la Bible, dans dans Ésaïe chapitre 5, il est dit que un jour, la lumière ressemblera aux ténèbres et les ténèbres à la lumière. Que de plus en plus le bien ressemblera au mal et le mal ressemblera de plus en plus au bien. Je l'ai changé un peu, mais il faut le relire dans Ésaïe chapitre 5, hein, vous connaissez ce passage. Nous y sommes en plein là-dessus. Cette séduction où si nous n'avons pas tous les jours cette prière devant le Seigneur, donne-moi un esprit de discernement, nous allons tomber dans des pièges et des pièges. Vous comprenez? Tenir ferme, ben c'est ça. Tenir ferme, c'est Seigneur, je veux avoir ce discernement. Et alors ce passage, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors déjà nous avons rencontré, il me semble, deux fois le mot ferme, n'est-ce pas? Fortifiez-vous, la force qui vient du Seigneur. Il est dit au verset 11 de tenir ferme contre les ruses du diable. Alors je saute, hein, je viens à la fin du verset 13 où il est dit tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors ça veut bien dire que même quand on dit bon, je crois que ça y est, je suis plus que vainqueur, ça y est, c'est bon, je suis un homme spirituel, etc. Alors, il te faut encore les armes pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Et je continue, verset 14 encore. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité, ceinture pour chaussures, donc à vos pieds le zèle. Je voudrais m'arrêter sur, par rapport à tenir ferme, je voudrais m'arrêter sur le 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Je voudrais m'arrêter sur le verset 16. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Et je voudrais, pour terminer, m'arrêter aussi sur le terme épée, bien sûr, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Pourquoi? Pourquoi m'arrêter sur, il est dit ici, mettez à vos chaussures, à vos pieds, le zèle que donne l'Évangile. Alors, par rapport à la méditation de ce matin et de cet après-midi, pourquoi les chaussures ? J'ai appris que, puisque bien sûr, on voit que l'apôtre Paul a été marqué par l'armée romaine. N'oubliez pas qu'il était lui-même citoyen romain, vous le savez très bien. Et donc, pour nous donner un maximum de leçons, pour nous convaincre que nous devons être remplis des armes, revêtir les armes de Dieu, il utilise les chaussures. Pourquoi ? Parce que j'ai appris que les soldats romains, pour pouvoir bien combattre et pour ne pas rater un seul coup, vous savez qu'il dit à un certain moment, avec mon épée, je ne bats pas l'air, c'est-à-dire n'importe comment, mais d'avoir de la sagesse quand on combat. Alors, souvent les soldats romains avaient un enduit, comme un enduit, pour qu'ils ne glissent pas, et pour que ça soit ferme pour eux, que quand ils avaient leur démarche, quand ils avançaient, quand ils combattaient, ils ne glissent pas. Et ils avaient donc cet enduit qu'ils mettaient sur les chaussures pour ne pas glisser. Je crois que c'est important pour nous. C'est important pour nous de revêtir premièrement les chaussures que Dieu va nous donner. Ne revêtons pas nos chaussures que nous choisissons. J'ai appris que s'il n'y a qu'une industrie qui marche bien, c'est toutes les sortes de baskets, toutes les sortes de chaussures, des tennis, alors là. Et c'est vrai. Alors, j'ai été étonné quand, de temps en temps, je me suis arrêté devant des magasins de sport et vous avez toute cette variété de chaussures qui correspondent à des chaussures de sport, c'est sûr. Peut-être certains, je ne vous regarde pas trop, mais vous avez des chaussures de sport. Hein, très bien. Bon, mais c'est très bien, c'est très bien. Mais c'est pour vous montrer l'importance que quand on court, quand on marche, etc., il nous faut de bonnes chaussures. Oh là là! Je ne sais pas si vous avez vu à un certain moment, je l'ai vu à un certain moment, des chaussures où on pourrait faire le tour du monde, mais sans aucune blessure, sans aucune douleur. On est bien dans ces chaussures, n'est-ce pas? Et puis, vous regardez les chaussures, vous dites, bon, il faudrait quand même que je les change, elles commencent à devenir vieilles. Mais on est tellement habitué, le pied s'est tellement modelé là-dedans qu'on ne veut pas, on ne veut pas. Mais c'est pareil, il faudrait qu'on ne change pas de chaussures. C'est des chaussures de combat. C'est pas des pantoufles. Vous avez compris ? Les pantoufles, c'est pour se reposer. On les mettra ce soir, peut-être en arrivant chez nous, quand on se décontracte, etc. Là, c'est des chaussures de combat. Et ça, c'est important. Et pour que je sois ferme dans ma marche, est-ce que j'ai les bonnes chaussures ? Est-ce que j'ai pris les chaussures qui viennent vraiment de Dieu ? Et puis, regardez ce qui est écrit aussi. Il est parlé ici du bouclier, bien sûr, parce que les flèches, ça ne va pas s'arrêter. Hein. Les flèches de l'ennemi vont arriver. Et puis le bouclier, au fait, où c'est qu'on tient un bouclier ? Au bras. Ça fatigue, le bras. Pourquoi ? Parce qu'en plus, nous avons d'un bras, nous avons le bouclier, et à l'autre bras, ou à l'autre main, nous tenons quoi ? L'épée, vous comprenez ? Et ça fatigue énormément. Et c'est pour cela qu'il faut tenir ferme. Alors je pense à ce verset peut-être qui va nous aider à comprendre ce verset que j'ai relu dans l'Épître aux Hébreux. Alors je vous le donne, hein, Hébreux 12, verset 12. Il est très facile à retenir ce verset. Hébreux 12, verset 12. Regardez ce qui est dit. « Fortifiez donc vos mains languissantes » et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie point, mais plutôt se raffermisse. Et puis recherchez la paix, avec, évidemment, avec tous, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais je m'arrête sur fortifier, donc on y revient, la fermeté, fortifiez donc vos mains, languissante et vos genoux affaiblis, pour suivre donc avec vos pieds des voies droites. Les genoux, des bras languissants. Pourquoi ? Mais parce que, je le répète, ça fatigue, le combat. Ça fatigue, l'épée d'une main, le bouclier de l'autre, et ça nous fatigue. Et nous devons être constamment fortifiés par le Seigneur. On voit sans arrêt, on doit revenir auprès du Seigneur et de dire, Seigneur, donne-moi les forces pour cette nouvelle journée que je vais affronter. Seigneur, donne-moi les forces parce que je sais que je vais être dans une situation aujourd'hui qui n'est pas habituelle pour moi. Et je te demande, Seigneur, que tu sois présent d'un bout à l'autre. Fortifiez vos mains et fortifiez vos bras et fortifiez vos genoux. Alors, je vous parlais de courir tout à l'heure. Je n'ai jamais couru de marathon de ma vie. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a couru un marathon. Bon, ben, très bien, formidable. Moi non, jamais je suis arrivé. J'ai fait un 20 km, mais c'était pendant l'armée. Donc vous voyez à peu près l'âge que j'ai. Ça fait quand même longtemps. Bref, fortifiez vos genoux. Alors je parlais avec un frère qui a fait un marathon. Et je lui disais, sans doute que dans le marathon, tu dois attendre les moments où c'est des descentes. Ah, il m'a dit, non, pas trop. Ah bon ? J'ai dit, pourquoi ? Parce que là, on peut peut-être rattraper un peu le temps et accélérer. Mais il dit, non, pas du tout. Parce que c'est à ce moment-là où on se fatigue le plus avec les genoux. Parce que sans arrêt, on est en train de se retenir, et c'est là où on se fatigue. Et j'ai compris ce verset, n'est-ce pas ? Les genoux. Les genoux ! Est-ce qu'on se met souvent à genoux pour prier ? Est-ce que notre combat est dans la prière ? Ça fatigue. Et c'est pour cela que Dieu parle ici, n'est-ce pas, de ce combat. Oui, voilà autre chose sur le quoi je crois qu'il faut s'arrêter. Est-ce que je suis assez fortifié, renouvelé dans la force par le Seigneur ? Voilà les quelques éléments que je voulais vous laisser pour comment tenir ferme. Est-ce que je le veux ? Pourquoi ? Parce que dans le programme voulu du Seigneur, il faut qu'on arrive au bout. Et le bout, c'est quoi ? Que l'on soit inébranlable. Vous vous rendez compte ? C'est pas le tout de combattre, c'est pas tout le tout de dire « Ah, aujourd'hui, amen, j'ai été victorieux. » Et puis « Amen, j'ai remporté la victoire. » Alors on oublie le Seigneur. C'est le Seigneur qui a remporté la victoire. Ah, aujourd'hui, amen, cette semaine, ça a été vraiment une semaine de victoire, etc. Pas du tout. Oh là là, frère, sœur, on fait erreur à partir de ce moment-là. Non, pas du tout. Le combat continue. Comme quelqu'un a dit, puisque nous étions dans l'épée, il a dit, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, voilà ce qu'il disait dans cette étude. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Dieu nous a donné une épée. Mais il ne nous a pas donné un fourreau pour mettre l'épée. Il faut la maintenir jusqu'au bout. Nous déposerons l'épée au pied du Seigneur quand il nous appellera pour l'éternité. Amen. C'est là où nous aurons le droit de... Ça y est, je dépose mon épée, mon combat est fini. Vous comprenez ? Et c'est pour cela que c'est important de tenir ferme. Parce que le combat est long, ça va être long. Il faut qu'on arrive à ce... Alors voilà le dernier verset, si vous le connaissez, mais relisons-le ensemble, ça nous fera du bien. Prenez 1 Pierre au chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5. Et voilà ce qui est dit. Je suis au verset 9. Résistez-lui, à qui ? Vraiment au diable. Alors je ne peux pas résister au diable avec ma force personnelle, avec mes stratégies personnelles. Pourquoi ? Parce qu'il est dit ici, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et ça, nous l'avons entendu maintes et maintes fois. Oui, chaque frère et sœur est exposé à des combats. Les combats différents les uns pour les autres, mais évidemment... En premier, je le sais, je suis passé par là. On pense qu'à notre combat, à nos difficultés. Et alors, voilà ce qui est dit. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, alors il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, On revient sur le thème de la fermeté. Il vous affermira, il vous fortifiera et amen, il vous rendra inébranlable. Alors à lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Pour tenir ferme, est-ce que je tiens fermement la main du Seigneur? Je vous l'ai dit, j'aime beaucoup les histoires des petits garçons. Et je pense à ces histoires, sans doute que vous connaissez, mais que j'ai déjà racontées, de cet enfant. De cet enfant qui était là et qui a dit à son papa, il a dit, papa, on va se promener. Eh bien, d'accord, ok. Il a dit, papa, je vais tenir ta main. Bon, mais d'accord. Alors, il était là, vous voyez un peu ce petit garçon de 3-4 ans, je pense à mon petit-fils, il y a 4 ans et quelques. Alors, il est là, et tiens-moi, ben, tiens-moi la main. Ouais, ouais. Et alors, ils ont commencé à marcher. Tout se déroulait très bien. Et puis, tout d'un coup, il a eu quelques hésitations, le petit garçon. Et puis, à un certain moment, il est tombé. Pourquoi? Mais parce qu'il tenait la main de son père. Et alors, c'est là où son père lui a dit, tu crois pas que ça serait plutôt moi, je devrais te tenir ta main? Et alors là, bien sûr, le père pas en train de tenir la main de son fils, il a trébuché, mais il n'est plus tombé. Pourquoi? Parce que la main de sa garçon était dans la main du papa. Et je crois que ce qui nous manque souvent, parce qu'on tombe souvent, et pour rester ferme, pour ne pas tomber, est-ce que je laisse le Seigneur tenir ma main? C'est ça l'important. Et c'est là où nous allons vraiment tenir ferme. Je le répète, ça deviendra de plus en plus difficile. On a besoin de se donner tout entier au Seigneur. Amen. Je vous demanderai de vous recueillir. Pensons à ces différents versets que nous avons lus dans la Sainte Parole, les Saintes Écritures. Pensons à ce que nous avons médité ce matin, cet après-midi. Je voudrais que chacun de nous, moi le premier, nous apprenions à dépendre de plus en plus du Seigneur dans tous les domaines. Le chemin va être peut-être long pour certains d'entre nous, peut-être plus court, je ne sais pas. C'est le Seigneur qui est maître de nos vies et c'est lui qui décide. Mais peu importe si le chemin va être long ou si le chemin va être court, j'ai besoin de toute l'assistance du Seigneur. J'ai besoin de me livrer à lui. J'ai besoin d'être débarrassé de tout ce qui m'embarrasse, comme nous l'avons vu tout à l'heure. J'ai besoin de l'armure venant du Seigneur. Je ne pourrai pas combattre, je ne pourrai pas être, comme nous l'avons vu dans Romains chapitre 8, je ne pourrai pas être plus que vainqueur avec lui, si je combats avec mes armes. Est-ce que nous sommes peut-être plusieurs à dire « Oui, Seigneur ». Oui, Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi de toutes ces stratégies personnelles que j'ai inventées et que j'invente encore. Seigneur, je veux dépendre de toi. Je veux, comme ce petit garçon, te dire « Prends ma main ». Oh, que nous sachions vraiment nous reposer en lui. Et c'est là où nous aurons la fermeté. Seigneur, merci. Merci parce que tu es notre Père céleste. Merci parce que tu es notre bon berger. Merci parce que tu veux nous conduire, tu veux nous diriger. Mais Seigneur, c'est nous qui parfois hésitons et nous te demandons pardon. Et nous te demandons que nous sachions jour après jour livrer nos vies entre tes mains. C'est là où nous deviendrons forts. Seigneur, oui, nous sommes de plus en plus dans une société, dans un monde qui est dans cette turbulence, qui est dans cette tempête. Et Seigneur, tu nous as montré ce matin que C'est inévitable. Il y aura de plus en plus ces tempêtes. Et nous voulons devenir des hommes faits en toi. Nous devons devenir des maîtres, comme tu le dis. Et Seigneur, tu vois notre faiblesse. Et je te prie, Seigneur, que tu nous donnes une fois de plus une faim, que tu nous donnes une soif de t'écouter, d'être à tes pieds. Tu es notre maître. Et que nous sachions donc te suivre. Seigneur, je te prie de bénir les différentes églises qui sont représentées ici cet après-midi. Seigneur, je te prie pour que tu bénisses chacun de nous, que tu nous diriges dans les moments de partage que nous allons avoir dans quelques instants. Et Seigneur, que tu nous prépares pour nos trajets de retour, que tu nous protèges, que tu nous gardes, et que nous sachions de même, dans nos différentes églises, t'apporter toute l'adoration. Toute l'adoration, toute la louange qui t'est due. Oh Seigneur, bénis ton œuvre dans cette région ici. Je te le prie aussi pour notre région là-bas à Toulouse, que nous continuions à te servir avec fidélité, mais avec aussi humilité. Père, je te le demande par l'intermédiaire de ton Fils Jésus-Christ. Amen.